C'est toujours une joie de vous revoir et de passer un moment dans le Seigneur à célébrer un culte qui lui revient. Ah, là on entend un peu mieux, mais pas d'écho surtout, hein, parce que voilà. Ça va comme ça? Merci. Alors, j'ai déjà, dès après le culte que nous avions eu ensemble, m'est venue assez rapidement une idée de message, c'est une réflexion sur les prophètes. Alors, je vous propose que nous réfléchissions ensemble sur les prophètes, leur ministère et le besoin que nous avons encore aujourd'hui d'avoir une voix qui nous parle comme celle des prophètes. Alors, on va d'abord aller dans Matthieu chapitre 23, versets 29 à 39. Matthieu chapitre 23. Alors, en vous disant le texte, j'ai oublié que parfois on peut donner la série des textes pour qu'ils soient affichés. Donc, vous allez être obligé de les trouver avec moi. Vous ne les aurez pas sur le mur. Matthieu chapitre 23. Verset 29. Donc, j'aime bien vous laisser le temps pour que vous trouviez le passage. Vous savez ce que Jésus a fait la première fois qu'il a prêché? C'était dans une synagogue. Et dès que lui, il trouva l'endroit où il était écrit. Et il n'y avait pas toute cette facilité des chapitres et des versets d'aujourd'hui, hein. Mais le Seigneur connaissait très bien l'écriture. Il faut dire qu'en tant que juif, il avait appris des pans entiers de la parole, il les avait mémorisés. Matthieu chapitre 23, je me souviens d'ailleurs que notre professeur d'évangélisation à l'école publique nous avait obligés à apprendre 100 versets. Et de tous les cours que j'ai eus, je pense que c'est l'une des choses qui m'a le plus marqué. Aujourd'hui encore, ces versets sont restés en mémoire. Et je crois qu'on a bien tort de délaisser la mémorisation dans la pédagogie. Et c'est excellent d'apprendre l'écriture. Hein. Quand c'est écrit que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche, ça veut dire que les Juifs la récitaient. Que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche, que tu puisses continuer de la dire, de la réciter. Pas seulement dans le cœur, mais dans la bouche, de la connaître par cœur. Alors, Matthieu chapitre 23, verset 29. Nous pouvons le lire ensemble. Malheur à vous, pharisiens, scribes, hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes tous les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, hein, dans le livre de la Genèse, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, c'est dans le deuxième livre des chroniques, mais dans le canon juif, le deuxième livre des chroniques était le dernier livre de l'Ancien Testament. C'est pour ça que Jésus dit d'Abel à Zacharie. Il voulait dire de la Genèse au dernier livre de l'Ancien Testament, deux chroniques dans le canon juif. C'est pour ça qu'il dit ça. Que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison sera laissée déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Amen. C'est ce passage qui m'est venu à l'esprit pour commencer à méditer moi-même sur les prophètes. Cette parole que Jésus a dite, « Je vais vous envoyer des prophètes. » Je vais vous envoyer des prophètes. Alors, on a relu le contexte et ça m'a rappelé quand même que Quand le Seigneur parlait, il parlait fort parfois, sévèrement, comme les prophètes de l'Ancien Testament. J'ai parfois un jour entendu dire des chrétiens, oui, mais les prophètes, c'est l'Ancien Testament, j'aime pas trop lire les prophètes parce qu'ils sont durs. On a besoin de toute l'Écriture. Et Dieu n'a pas changé. Il est le même dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Et nous avons besoin d'une parole de vérité, d'une parole parfois même dérangeante. Parce que si nous ne voulons écouter que ce qui nous plaît, nous ne changerons jamais. Et nous mourrons dans nos péchés. Jésus invective les pharisiens avec sévérité. Alors là aussi, ça nous permet aussi d'avoir une vision équilibrée de Jésus-Christ. Il est celui qui a dit, il est doux et humble de cœur, c'est vrai. Il est celui qui a défendu la femme adultère, mais il est aussi celui qui a fait de cordes un fouet pour chasser les vendeurs du temple, celui qui, dans une opposition avec les Juifs, répondait avec fermeté et des mots que nous n'aurions plus aujourd'hui même employés. Serpent, race de vipère. C'est quand même pas très fraternel de dire cela. On sait que Jean-Baptiste parlait comme cela, mais on oublie que le Seigneur a parlé aussi comme cela, face à des religieux endurcis. Le Seigneur avait le courage de la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité. La vérité était habitée en lui. Et c'est cette vérité qui lui donnait d'avoir une certaine indignation. Nous, parfois, nous sommes tellement tolérants que nous ne sommes plus indignés de ce qui devrait produire en nous des réactions à cause de la vérité. Alors, ce que Jésus dit, c'est que les prophètes sont rejetés par le peuple de Dieu. Il dit des pharisiens, mais vous croyez que vous êtes meilleurs que les anciens juifs qui ont tué les prophètes, mais en vous inscrivez dans la même lignée. Et vous verrez, ils ont tué les prophètes, vous leur reprochez d'avoir tué les prophètes, vos ancêtres. Mais moi, je vous envoyais des nouveaux prophètes et vous ferez la même chose. Vous les pourchasserez, vous les tuerez dans vos synagogues. Et le livre des Actes des Apôtres nous montre notamment comment Paul a été pourchassé, on l'a vu en semaine avec quelques-uns, par ces mêmes opposants. Alors, tout cela pour dire quoi? Je crois que nous avons en nous quelque chose qui s'oppose à la vérité. Il n'y a pas que les Juifs, nous sommes tous faits de la même pâte. Et nous devons veiller à ne pas avoir une oreille malade, mais être capable d'entendre ce que Dieu a à nous dire. Nous pouvons, comme les pharisiens, dire « Ah, mais nous, on n'est pas comme eux !» Et ils disaient ça de leurs ancêtres « Ah, mais nous, on n'est pas comme eux !» Nous, maintenant, on est du bon côté, on est du côté de Dieu. Et ils se trompaient. Vous savez, nous tenons à certaines choses et nous sommes peut-être pas toujours disposés à entendre Dieu nous dire différemment de ce que nous voulons. Tout simplement. Pourtant, leur ministère devait rassembler, parce que Jésus dit, je vous ai envoyé des prophètes et par eux, je voulais comme une poule rassembler les poussins. Alors ça, c'est intéressant de concevoir le ministère des prophètes comme étant un ministère favorable à l'unité, au rassemblement du peuple de Dieu. Parce que je ne sais pas vous, parfois vous pourriez dire, avec ceux qui me prêchaient, ça rendait peut-être les choses plus difficiles. Au contraire, je crois qu'il y a une fausse paix basée sur le compromis. Mais le véritable rassemblement, c'est quand l'Église sera touchée au cœur par la vérité et s'unira sur une base d'en haut. On peut unir une église par le bas, par des sentiments humains, par une entente humaine, par une compromission. Mais la véritable unité, c'est celle de la vérité. Celle qui est produite par un message entendu et accepté pour que nous allions ensemble dans la même direction celles tracées par les prophètes. Alors, les serviteurs de la Nouvelle Alliance sont donc appelés par Jésus scribes, prophètes, sages. Pourtant, dans le reste du Nouveau Testament, vous n'avez pas ces ministères. Il y a apôtres, prophètes, pasteurs, anciens, etc. Vous connaissez, évangélistes. Mais il n'y a pas cette appellation. Jésus se sert de l'appellation ancienne dans le judaïsme, mais pour dire quand même que, même s'ils n'en ont pas le titre, les serviteurs de Dieu du Nouveau Testament feront ce que faisaient les scribes, les sages et les prophètes. Ça veut donc dire que l'aspect prophétique est toujours valable dans l'Église et qu'il nous faut encore des hommes courageux pour dire ce que Dieu leur aura dit. Les prophètes avaient un poids sur leur cœur quand c'est écrit « oracle ». Ça veut dire « fardeau », littéralement aussi, « fardeau ». Les prophètes n'étaient pas des professeurs de théologie qui délivraient un cours froidement. C'était des hommes qui avaient de Dieu un message qui pesait sur eux. C'était un feu dévot. Et quand ils parlaient, le feu sortait. Non pas pour détruire, mais pour purifier. Alléluia. Et que Dieu fasse que dans l'Église, il y a encore la voix du Saint-Esprit. Parce que le ministère des prophètes, c'est le ministère du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Ils étaient au moins de l'Esprit. C'était l'Esprit qui parlait par eux. C'était le feu de l'Esprit. Et ô combien nous avons encore besoin aujourd'hui, non pas encore de formation. Nous sommes dans le siècle de la formation. Et sur Internet, vous pouvez consommer beaucoup de messages. Mais vous savez, l'Église, elle n'a pas besoin de formation, de formation, de formation et de formation. Je crois qu'elle a besoin avant tout de la voix de Dieu, d'être touché plus profondément. Parce qu'on peut se perfectionner, se spécialiser, et au final, ne plus être vraiment dans cette vie d'en haut, dans cette vie authentique. Authentique, parce que justement, ce qui caractérisait les prophètes, c'est que eux voyaient la réalité de l'état spirituel du peuple. Quand le peuple de Dieu continuait à aller au temple, continuait à se tromper en faisant de la religion, les prophètes étaient là pour dire, vous savez, même un prophète qui dit, je hais le bruit de vos cantiques. Oh, c'est fort. Parce que derrière tout le tarage de leur réunion, il y avait une réalité spirituelle. Et c'était tout à fait autre. Et les prophètes voyaient. On appelait les prophètes autrefois le voyant. Et ce dont nous avons besoin, bien-aimés, c'est d'avoir ce discernement pour voir où on en est. Pour voir comme Dieu voit. Pour être conduit dans son chemin, sa vérité. Alors je vous propose d'aller dans le prophète Jérémie, au chapitre 6, versets 13 et 14, pour voir les critères d'authentification du prophète. Jérémie, chapitre 6, versets 13 et 14. Jérémie 6. On va faire quelques lectures. Jérémie 6, verset 13. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Ils pensent à la légère, la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. Alors ça, c'est les faux prophètes. On est en critère d'authentification. Eh bien, le message des faux prophètes, c'est la fausse sécurité. C'est de rassurer les gens alors qu'il ne fallait pas les rassurer. Il y a une traduction qui dit « tout va bien » au lieu de « paix, paix » parce que nous, « paix, paix », c'est pas notre culture, c'est plus la culture orientale. Hein, les Arabes se saluent « salam alaikum »,« alaikum salam »,« la paix soit sur toi ». Voilà, c'est plus oriental. Nous, ça, c'est moins parlant. Alors d'autres traductions disent, ils disent, tout va bien, tout va vraiment bien, paix, paix, parce que c'est rajouté, donc tout va vraiment bien, tout va bien, tout va vraiment bien, alors que rien ne va, la paix ne vient pas. Et j'aime bien cette traduction qui nous permet de mieux comprendre dans notre cœur. Voilà, une fausse sécurité. On dit parfois que certaines personnes du temps du réveil de Wesley prêchaient, récitaient des sermons de John Wesley. Et quand les gens, en entendant ces sermons, tombaient à genoux, pleuraient, se repentaient, ces prédicateurs qui copiaient, qui lisaient, allaient voir ces gens et essayaient de les consoler. Mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. Vous comprenez? Il y avait une grande différence, merci. Une grande différence entre l'homme qui, comme les prophètes, avait ce fardeau de dire une vérité salutaire et d'autres qui étaient même gênés que des gens puissent pleurer sur leur péché et qu'il fallait essayer de les consoler. Non, je crois que nous avons autre chose que de toujours nous entendre dire « Le Seigneur va nous bénir ». Merci Jean. On n'est pas dans l'église pour toujours être rassuré, vous savez. Il ne faut pas venir dans l'église pour qu'on entende toujours le Seigneur t'aime et puis la victoire. Je trouve qu'on a des défauts, nous les évangéliques, parfois. C'est la victoire, la victoire, la victoire, la victoire. Et on a l'impression que c'est magique. Plus on va proclamer la victoire, plus on va avoir la victoire. Et c'est ridicule, excusez-moi. Je vous choque peut-être. Mais des fois, on a des pratiques et des slogans qui, des personnes du monde viendraient au milieu de nous et diraient, mais ils font de la méthode couée, là. Ils se fabriquent leur truc. Et parfois, ils auraient raison. Vous comprenez? On n'est pas dans un club américain de positivisme. On ne se rassemble pas pour reprendre une vitamine. On se rassemble pour rencontrer Dieu. Complètement différent. Pour que Dieu nous sauve, que Dieu nous parle, que Dieu nous change. Que nous puissions le glorifier, l'honorer. Et je ne vois pas dans l'Écriture à toutes les pages de la Bible, que l'on soit toujours rassuré. Je crois que l'Écriture, souvent, est un miroir qui nous déçoit. Oh, je savais pas que j'étais comme ça. Cette semaine, j'étais au travail et d'un coup, j'ai vu, je m'étais pas coiffé. Oh, il faut que j'aille vite me recoiffer. Je crois que des fois, on a bien besoin de que le Seigneur nous montre comment il nous voit. Amen. Et ne pas être un auditeur oublieux, mais de demander pardon au Seigneur et de compter sur sa grâce. C'est lui qui le fera, gloire à Dieu. Parce que je crois que l'obéissance fait partie de la vie chrétienne, mais je ne crois pas que nous serons obéissants. Je crois que lui agira dans notre vie et nous rendra obéissants. Alléluia. Parce que nous savons ce que c'est de compter sur nous, ça ne marche pas. Alors allons au chapitre 28 du prophète Jérémie. Jérémie, chapitre 28. Le frère qui a lu un texte ce matin disait bien que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, pour agir avec fidélité, et c'est alors qu'il sera avec nous. Vous savez, la victoire, c'est pas dire on est chrétien, le Seigneur est victorieux, on a la victoire. Il y a quand même des conditions de victoire. Ce serait un beau message, ça, de parler ensemble de ce que c'est que la victoire d'après la Bible et les conditions de victoire. Elles existent aussi. Alors, chapitre 28, on peut le lire, on va lire une confrontation entre un vrai prophète et un faux prophète. Chapitre 28. Dans la même année, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, le cinquième mois de la quatrième année, Anania, fils d'Azur, le prophète de Gabaon, me dit dans la maison de l'Éternel, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple, en pleine réunion. Et quelle réunion? C'était une réunion d'église exceptionnelle. Ainsi parle l'Éternel des armées. C'est Dieu qui parle, le Dieu d'Israël. Je brise le joug du roi de Babylone. Encore 2 années et je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevé de ce lieu et qu'il a emporté à Babylone. Et je ferai revenir dans ce lieu, dit l'Éternel, Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, et tous les captifs de Juda qui sont allés à Babylone, car je briserai le joug de Babylone. Alors là, voilà, ça c'est le faux prophète. Le faux prophète dit, fini, c'est la victoire. Dans 2 ans, les Babyloniens sont fichus, tout le monde va revenir, et c'est reparti pour Jérusalem. C'est le faux prophète qui annonce encore la paix, qui annonce quelque chose de très positif. Verset 5, Jérémie, le prophète, répondit à Anania, le prophète, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple qui se tenait dans la maison de l'Éternel. Jérémie, le prophète, dit, Amen, que l'Éternel passe ainsi. Il n'était pas contre eux. Que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées, qu'il fasse revenir de Babylone dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel et tous les captifs. Seulement écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants et de grands royaumes la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritable envoyé par l'Éternel. Alors Anania, le prophète, enleva le joug de dessus le cou de Jérémie, le prophète, et il le brisa. Alors là, on comprend mieux ce qui s'est passé. Jérémie avait mis une pièce de bois, un joug sur lui. Et il se promenait comme ça. Il n'avait pas besoin de parler, il n'avait pas besoin de prêcher. Mais ça embêtait tout le monde. Ils étaient tous réunis pour prier Dieu. Alors j'imagine la réunion de prière. Seigneur, fais revenir les captifs. Juge les Babyloniens, viens nous faire grâce. Et puis Jérémie, lui, qui promène avec le joug. D'ailleurs, de dire continuez de prier, ça ne sert à rien. Ce joug, c'est Dieu qui le met sur nous à cause de vos péchés. Alors, au début du chapitre, on voit Anania qui dit, je brise ce joug. Eh oui, parce qu'ils en avaient marre de voir Jérémie avec le joug. Ils ne voulaient pas entendre ça. Ils ne voulaient pas entendre qu'ils avaient besoin plutôt de réfléchir sur leurs péchés, de s'humilier. Alors un prophète théâtral ose dire dans 2 ans. Et ensuite, ben, brise le joug de Jérémie. Verset 12. Après que Anania, le prophète, eut brisé le joug de dessus le cou de Jérémie, le prophète, la parole de l'Éternel, la vraie, fut adressée à Jérémie en ces mots. Et à la fin, en fait, ce faux prophète va même mourir. On n'a pas le temps de tout lire ce chapitre. Quelle confrontation, vous savez, entre un faux prophète et le vrai prophète. Et là, on apprend que Jérémie nous donne comme critère d'authentification, c'est que, en général, les prophètes prophétisaient. Alors, 3 choses. Le malheur, la peste, je ne sais plus quoi. Et la guerre, je crois. C'est pas engageant. Et c'est vrai que quand on reprend les Écritures, les prophètes ont beaucoup parlé du jugement de Dieu. Nous parlons beaucoup de la grâce de Dieu avec raison, je suis très attaché à la grâce de Dieu. Mais la croix, c'est quand même un jugement. Le Fils de Dieu a été jugé à cause de nos péchés, condamné à mort, par une mort infâme. La croix, ce n'est pas que l'amour de Dieu. La croix, c'est la justice et le jugement de Dieu. Dieu l'a jugé à cause de nous. C'est nous qui sommes responsables de la mort du Fils de Dieu, à cause de nos péchés. Et je crois que nous devons toujours rester dans cet amour de la vérité, parfois dans nos vies. Au lieu de toujours demander à Dieu que ça aille mieux, que ça change, que ceci, que cela, ne devrions-nous pas plutôt parfois nous dire, Seigneur, si je suis là, tu veux peut-être me dire quelque chose. Il ne voulait pas écouter Jérémie. Il voulait écouter un autre message parce qu'il voulait s'en sortir sans changer. Mais bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Nous ne sortirons pas de nos épreuves sans changer. Si nous avons des épreuves, c'est parce que nous avons besoin de changer. Peut-être que nos épreuves sont injustes. Peut-être que des gens sont méchants envers nous. Tout cela est vrai. Dieu le sait. Dieu a utilisé les Babyloniens qui étaient cruels. Mais pour le bien de son peuple. Et nous ne devons pas nous énerver contre les païens et leur en vouloir de ce qu'ils nous font. Mais plutôt nous soumettre à Dieu et dire, Seigneur, parle-moi. Change. C'est injuste. Ils ont tort. Mais je crois que tu veux me sanctifier. Je crois que tu veux me changer. Amen. Et là, alors nous serons dans l'écoute des prophètes. Vous comprenez? Nous serons dans l'écoute de ce que Dieu veut nous dire. Si vous ne cherchez que des personnes qui vous comprennent, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. C'est vrai que c'est dur parfois d'entendre certaines paroles, mais c'est parfois plus favorable que déflatif. Alors on va lire dans 2 Timothée chapitre 4, versets 1 à 3. 2 Timothée chapitre 4, versets 1 à 3. Timothée chapitre 4, verset 1 à 3. J'ai toujours aimé entendre des pages de la Bible tourner dans le livre. J'ai toujours apprécié. De Timothée chapitre 4, verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. La solution, mais toi, sois sobre en toute chose. On m'a fait réfléchir il y a des années. Toi, sois sobre en toute chose. Parce qu'on est toujours tenté de, si on est dans un esprit commercial, là on n'est plus du tout dans le spirituel. Dans un esprit commercial, on est toujours tenté de proposer toujours un meilleur produit. Et vous savez, ce qui est terrible aujourd'hui, c'est que les églises sont devenues parfois comme des supermarchés, où on va proposer les meilleures offres pour attirer le plus de clients possible. Quitte à enlever des clients d'autres supermarchés, d'autres églises, vous comprenez bien. Mais l'Écriture dit ici, toi, sois sobre en toute chose. Ne va pas dans cette voie de choses plaisantes, nouvelles. Toi, sois sobre, reste à prêche la parole. Tant favorable ou non, comme les prophètes. Comme les prophètes, Timothée, qui ont continué de dire le message de Dieu dans des moments où personne n'en voulait, même s'ils étaient lavisés, même s'ils n'avaient pas de succès. Combien de prophètes ont eu de succès? Pas beaucoup. Je me souviens, une fois, j'étais vraiment découragé. J'étais tout jeune pasteur. Et vous savez, des fois, on voudrait qu'il y ait un réveil, qu'il y ait des milliers de conversions. Voilà. Des fois, on est, alors, je ne sais pas si on est dans la foi ou dans le rêve. Excusez-moi, un frère qui est passé ici, j'ai très apprécié. Il disait que pour lui, parler du rêve dans l'église, c'était pas adapté. Je suis tout à fait d'accord avec cela. On ne rêve pas dans l'église pour Dieu. Je sais pas quoi. Je sais qu'il y a des chants qui vont dans ce sens-là. Mais je crois vraiment que c'est une erreur, c'est une déviation. C'est pas le cas. Alors j'étais découragé. Parce que mes rêves ne s'accomplissaient pas. Et à la fin du culte, il y a un frère qui me salue. Bon, je crois qu'il avait dû voir clair. Et il me disait, frère, avec Jonas. Ah, il n'était pas bien disposé. Hein. Et quel réveil. Et Noé, quel homme de Dieu. Hein. Il n'y en a pas eu beaucoup qui ont cru. Hein. Ça m'a aidé. Ça fait plus de 20 ans, plus de 30 ans même. Et je m'en souviens encore. Parce que c'est vrai que, vous savez, nous sommes malades du succès. Nous avons un problème avec ça. Et c'est la culture occidentale. Il faut que ça marche. Il faut que les églises soient pleines. Il faut... Et c'est l'objectif. Mais c'est dangereux. C'est commercial. L'église n'est pas une boutique à faire fonctionner. C'est un temple à construire en l'honneur de Dieu. C'est complètement différent. Et ici, Paul dit, il y aura un moment donné où les gens vont avoir des oreilles malades. Une oreille qui se démange. Vous savez, des fois, vous avez des boutons, ça gratte, ça démange. C'est que vous avez un problème. Des oreilles, une démangeaison, une oreille malade. Ce qui est terrible aujourd'hui, c'est qu'avec Internet, on peut vraiment vivre ça. Se donner une foule de docteurs. Avoir son petit prédicateur. Ses petits messages. Ses petits thèmes favoris. Tourner en boucle dans ça, s'alimenter dans ce qu'on aime bien. Ouais, mais c'est dangereux. C'est dangereux de ne vouloir. Moi, on m'a toujours dit, par exemple, dans la Bible, faut pas lire toujours les mêmes livres. Il y a les consommateurs de psaumes. Voilà, même il ne faut pas lire que les psaumes dans la Bible. On parle des prophètes. Et Pierre, dans son épître, dit, vous faites bien de vous éclairer de la lampe. Prophétique. Il faut tout lire la Bible, toute la Bible, même le Lévitique. Oh. Parce que c'est toute la Bible qui va nous donner la bonne santé. Vous savez, quand on ne mange qu'un aliment, même si cet aliment est excellent, on finit par tomber malade. Moi, je pense qu'un chrétien qui ne lit que les psaumes ne sera pas en bonne santé. Pourtant, les psaumes, c'est excellent. C'est la parole de Dieu. Mais il faut lire toute la parole de Dieu pour entendre tout, pas que ce que l'on préfère ou ce qui nous correspond, qui va étayer nos idées. Et on se ressent là, on dit, ah ben vraiment, je ne m'étais pas trompé, j'avais raison. Et on aime bien avoir raison, il faut en reconnaître. Vous savez ce que disait Akkad de Miché? À un moment donné, Josaphat dit à Akab, il n'y a pas un autre prophète. Si, il y en a un. Il y en a un. Mais je le hais. Il ne me prophétise que du mal. C'est Miché, fils de Jimla. Vous connaissez vraiment bien sa carte d'identité. Et c'est sûr que, pourtant, s'il avait entendu Miché, il ne serait pas mort au combat. Juste. Alors, on va lire peut-être 2 Chroniques 34, 33, s'il vous plaît. 2 Chroniques 34, 33. Vous savez, ces temps-ci, je pense beaucoup à cela. Je discutais avec un homme de Dieu qui a été mon professeur. On a retrouvé le contact ensemble. Et on discutait ensemble au téléphone. Vous savez, toujours sur. Ben, vous avez été aussi dans ça, le ministère, les anciens, les pasteurs, etc., les structures des églises. Et il est arrivé à une conclusion qui rejoignait aussi la mienne, donc on était heureux de partager cela. Au fond, la Bible, ce n'est pas un livre qui nous donne des recettes. Dans la Bible, vous n'avez pas vraiment un schéma qui vous dit, voilà, dans une église, c'est ça le modèle, il faut qu'il y ait un pasteur, ou il faut qu'il y ait des anciens, ou il faut... C'est comme ça, il n'y a pas un organisme, il y a une église qui a vécu, dans les actes des apôtres, il y a des textes, mais pourquoi il y a, depuis 2000 ans, des versions différentes dans la théologie sur ce sujet-là? C'est bien la preuve que l'Écriture ne nous dit pas dans le détail comment il faut faire. Et ça, c'est un sujet, mais je pourrais vous parler d'autres sujets, sur l'eschatologie, la fin des temps, par exemple. Il y a plusieurs théologies sur la fin des temps. Parce que dans la Bible, vous avez des schémas superbes qui sont faits, hein, mais ces schémas-là ne sont pas dans la Bible. C'est nous qui voulons à tout prix, qui avons cette maladie de tout savoir, de tout comprendre, de tout expliquer, de tout schématiser. Mais moi, ce que j'ai peur, vous savez, c'est qu'on va vouloir connaître, mais qu'on n'aura plus la vie de la parole de Dieu, qui touche nos cœurs, qui nous reprend, qui nous éclaire, qui nous conduit. Et c'est pour ça que l'Écriture n'est pas un livre de recettes, d'organisation d'église, de théologie ou autre, mais c'est un livre où le salut est présenté dans des personnes, des événements, dans du vivant. La parole doit être vivante. Alléluia. Alors, 2 Chroniques 34, verset 33, je sais que c'est décevant parce que nous, on aime bien dire, j'ai tout compris, je sais maintenant, dans la vie, c'est comme ça. Et parfois, on dit, l'Écriture dit, ouais, ou ce que tu penses. 2 Chroniques 34, verset 33. Josias fit disparaître toutes les abominations de tous les pays appartenant aux enfants d'Israël. Et il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel, leur Dieu. Pendant toute sa vie, ils ne se détournèrent point de l'Éternel, le Dieu de leur père. Josias, c'est le plus grand réveil dans l'Ancien Testament. C'est un moment formidable où tout Israël abandonne l'idolâtrie, pas complètement, mais globalement, pour se tourner vers Dieu. On se dit, mais c'est formidable. Et on ne comprend rien, c'est qu'après, ça va vite dégénérer. Eh bien, on va lire maintenant dans Jérémie, chapitre 3, verset 6. Jérémie, chapitre 3, verset 6. Jérémie a vécu du temps de Josias. C'est un prophète qui a accompagné les derniers rois d'Israël à partir de Josias, de Juda, pardon, à partir de Josias. Donc, Jérémie, chapitre 3, verset 6. Voilà ce que nous avons, ce que nous pouvons lire. L'Éternel me dit, au temps du roi Josias, donc c'est bien pour confirmer que Jérémie vit au temps du roi de Josias. Et le verset 10, maintenant, malgré tout cela, la perfide Juda, sa sœur, n'est pas revenue à moi de tout son cœur, c'est avec fausseté qu'elle l'a fait, dit l'Éternel. Là, on a la vérité. Dans le livre des Chroniques, on a la vérité d'un fait. Il y a une réforme extraordinaire du roi Josias. Israël a abandonné l'idolâtrie pour revenir à Dieu. C'est un fait historique. Mais le fait spirituel, la réalité du cœur, c'est dans Jérémie qu'on le voit. Jérémie dit, vous avez fait cette réforme, vous êtes revenu à moi, mais c'est faux. C'est faux. Et tout le reste le montrera après dans le livre des Chroniques. Voyez, les prophètes voyaient au-delà des apparences. Les prophètes ne se trompaient pas sur des actes de piété extérieurs ou obligatoires, parce que Josias avait forcé un peu là. Vous savez, parfois dans une église, il suffit qu'il y ait un pasteur qui soit aimé, reconnu, qui a peut-être une forte personnalité, et que Dieu utilise. Et l'Église va aller dans la bonne direction. Et tout le monde va penser, ah, c'est, on vit un moment béni, on vit un moment de fidélité, puis ce pasteur part. C'est bizarre, au bout de 2-3 ans, c'est plus la même Église. C'est parti dans tous les sens. Ah, c'est comme du temps de Josias. En fait, ce que nous avons besoin, c'est de ne pas être piloté par un homme, mais c'est d'être touché dans le cœur par sa parole. Alléluia. D'être bouleversé intérieurement. Le prophète avait du discernement. Vous savez, nous pouvons nous tromper nous-mêmes, que Dieu nous donne du discernement. Pourquoi je vous parle de ces choses? Je crois que le prophète, c'était un laboureur. Le prophète allait au-delà des apparences. Il avait un jugement spirituel, il discernait. Le prophète remettait en cause. Et nous avons besoin dans l'Église, frères et sœurs, d'être non pas superficiels, mais que Dieu nous touche plus profondément. Pour que nous puissions nous rendre compte. Mais en fait, Seigneur, je te dis tout ça. Mais là, tu me touches. Je ne suis pas vraiment consacré à toi. Ou dans ce domaine de l'argent, j'aime plus l'argent que je pensais. Parfois, Dieu nous révèle des choses. On se dit, oh, moi maintenant je suis chrétien. Oh, je suis chrétien. Oh, j'ai plus de problème. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà raconté, ça va peut-être vous choquer un peu, mais ça m'a bouleversé, ça. On a connu un pasteur qui a connu la guerre avec les Allemands. Bon, il s'est converti. Il l'avait pardonné, hein, il vivait. C'est vraiment un homme de Dieu. Puis un jour, en tant que pasteur, il s'est retrouvé dans une convention chrétienne en Allemagne et il devait prêcher. Il s'assoit, tout ça. Bon, j'étais bien avec les Allemands, hein, c'était frère en Christ. Puis il les entend chanter. Et il réentend les chants nazis. Ce qu'il avait pu revenir. Et là, il découvre qu'il a quelque chose en lui. Il vient au pupitre et avant de prêcher, il demande pardon. Je dois me confesser ces choses. Il a été libéré. Il a pu prêcher la parole de Dieu. Il y a des choses encore, des fois, que nous ne soupçonnons pas, mais que seule une parole prophétique, entre guillemets, une parole de vérité pourra nous montrer. Si nous avons un cœur bien disposé. Amen. Parole plus profonde. Alors, je pense qu'il est déjà bien avancé. Alors, on va aller à mon texte de conclusion directe. Hébreux chapitre 4, verset 12. Pour terminer. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Parce qu'il dit juste après, n'est pas sans relation. Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devrons rendre compte. Ça veut dire que nous, on a peut-être les yeux fermés. Mais Dieu voit. Et qu'un jour, on devra lui rendre compte. Donc on a tout intérêt de laisser sa parole nous juger. Hein? Elle juge les sentiments du cœur. Elle partage. Hein? Parfois, on dit, maintenant, on n'est pas jugé. Si on est jugé par sa parole doit continuer de faire cette œuvre de jugement. Elle juge les sentiments de nos cœurs. Sa parole doit continuer de nous juger pour continuer de nous sauver. Alléluia. Partager, départager en fait. Vous savez, la parole de Dieu fait un tri. Il y a des choses mélangées dans notre vie. Parfois même quand on sert Dieu, il y a un vrai désir de servir Dieu alors qu'avant on était son ennemi. Et en même temps, se mélange à ça l'orgueil de paraître devant les autres ou de se faire plaisir par son service, à ses mots service dans l'Église. Et la parole de Dieu va départager tout ça, va aller, jointures et moelles, c'est chirurgical ça. Je ne sais même pas si aujourd'hui la science moderne peut le faire. Jointures et moelles. C'est-à-dire que la parole de Dieu va aller dans des endroits de nos vies où il y a du mélange, et là le Seigneur dira, non, 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 mais ça c'est bon. Mais ça qui va avec, c'est beaucoup moins bon. Et la parole va trancher. Alléluia. Elle va trier. Il y a du tri à faire dans notre vie encore. Vous pensez que maintenant vous avez 10 ans, 20 ans? Moi maintenant j'ai combien? Je suis combien? Il y a 16 ans. C'est des choses que je ne pense pas. J'ai plus de 30 ans. C'est bizarre, j'en suis que là. Moi, quand j'avais 16 ans, je me disais, mais dans 10 ans, vraiment, je serai un chrétien, presque un ange. Hein. Mais plus de 30 ans après, je suis loin d'être un ange. Franchement, on se dit, mais même après 10, 20, 30 ans, il y a encore du tri à faire dans notre vie. On n'est pas arrivé. Le Seigneur a encore des choses à nous dire. Alléluia. Et nous voudrions vivre à sa lumière, tout simplement. Une parole vivante et efficace. Voilà le but de nos rassemblements aussi. Et je crois que ce sera le bon mot de la fin, que nous aurons droit au secours du souverain sacrificateur, puisque les versets 15, 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Nous avons un souverain sacrificateur compatissant. Gloire à Dieu. Sa parole va nous juger, va trier, mais nous avons un sauveur. Un sauveur qui est dans le jugement de la parole de Dieu continuera d'être avec nous, Emmanuel, jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. Voilà une réflexion sur les prophètes. Le but de ce message, c'est de nous dire les uns les autres, aimons la vérité, laissons-nous travailler par elle, et que Dieu puisse nous détromper de toutes nos erreurs actuelles dans nos vies. Même si c'est désagréable, même si c'est bouleversant, les prophètes étaient des laboureurs. Je voudrais avoir toujours un cœur capable de se laisser labourer par Dieu. Parce qu'après le labour, ce sont les fruits. C'est la moisson à la gloire. Amen.